Je vous invite aujourd'hui à examiner avec moi une page de la Bible qui est le point de mire préféré des critiques. Il s'agit de la prophétie de Jonas. Qui n'a pas entendu parler de Jonas et de la baleine? Tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit. C'est une histoire que l'on classe sans hésitation au rang des contes pour enfants. Ce qui est plus grave, c'est que le livre de Jonas, se trouvant dans la Bible, on en vient à considérer la Bible tout entière comme un recueil de fables et de légendes. Or, parmi ceux qui rendent un verdict aussi définitif, je gage que 99% ne l'ont pas lu, ne serait-ce qu'une seule fois, pas même le livre de Jonas, qui n'occupe pourtant que 4 chapitres, 48 versets en tout, soit environ 5 minutes de lecture. Comment peut-on porter un jugement objectif sur quoi que ce soit, en l'occurrence sur un document ou un rapport, sans avoir auparavant examiné le contenu de ce rapport? Eh bien, examinons ce document. Quel est le contenu de la prophétie de Jonas? Dès le premier chapitre, Dieu donne au prophète Jonas mission d'aller dans la ville de Ninive, capitale des Assyriens, pour annoncer aux habitants la ruine prochaine de leur capitale s'ils ne se repentent pas de leur corruption et de leur cruauté. Or, Jonas est un Hébreu. L'Assyrien est un ennemi des Hébreux, un païen. Jonas ne peut pas supporter l'idée que Dieu s'intéresse à tout ce qui est étranger à Israël. Alors, il se dirige dans la direction opposée et trouve à s'embarquer sur un navire qui fait voile vers Tarsis, au sud-ouest de l'Espagne. Pendant le voyage, la mer se déchaîne. On frôle le naufrage à chaque instant. Les marins jettent toute la cargaison à la mer pour alléger le navire, mais rien n'y fait. Chacun implore son Dieu. Mais Jonas avoue que c'est à cause de lui que la tempête s'est levée. Dans son aveuglement, dans l'aveuglement de sa révolte, il avait cru qu'il était possible de fuir l'Éternel. Mais l'Éternel le poursuit, et il propose lui-même qu'on le jette à la mer. Alors commence le chapitre 2. Ici, deux versets font sourire les critiques. Le premier et le dernier. Voici le premier. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Puis c'est la prière de Jonas, dans son étrange abri. Et voici le dernier verset de ce chapitre. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Enfin, le prophète, surmontant sa réticence, ira enfin à Ninive, qui se repentira et se tournera vers Dieu. Il faut avouer franchement que le récit est surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains le trouvent positivement invraisemblable et n'hésitent pas à dire qu'il s'agit d'une légende, sans aucun fondement historique. D'autres sont d'avis que nous sommes en présence d'une parabole destinée à illustrer la sollicitude de Dieu pour tous les peuples, non seulement pour Israël. Mais tout aussi franchement, je ne vois pas en quoi il est plus difficile à un chrétien d'accepter ce rapport comme parfaitement historique que de croire que Jésus est sorti vivant du ventre de la terre après y avoir séjourné 3 jours. Mais parlons de Jonas, de l'homme lui-même. Est-il un personnage fictif auquel on a donné un nom pour agrémenter la parabole ou la légende? Au contraire, on s'aperçoit qu'il est question de lui comme d'un être réel, dont l'existence est aussi attestée que celle d'un David ou d'un Ésaïe. Le livre qui porte son nom précise qu'il est fils d'Amittai. Et le second livre des rois fait une référence historique à une prophétie de Jonas qui s'accomplit sous le règne du roi d'Israël, Jéroboam. Ce texte précise en outre quelle était la résidence du prophète. Il n'y a donc aucun doute quant à l'historicité du personnage. Mais les faits, que penser des faits? L'histoire est-elle véridique? Signalons d'abord que dans ses enseignements, Jésus fait mention de Jonas en des termes qui montrent qu'il ne partageait certes pas notre méfiance à l'égard de l'extraordinaire aventure du prophète. Un jour que les Juifs incrédules et hypocrites lui avaient demandé « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas. » Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Puis il mentionne la conversion des habitants de Ninive, qui qui seront présents au jour du jugement et condamneront cette génération. Car les Ninivites se repentirent autrefois à la prédication de Jonas. Or, avec Jésus, il y avait plus que Jonas. Et cependant, ses exhortations au repentir n'étaient pas écoutées. Qu'on ne nous dise pas qu'en évoquant l'histoire de Jonas, Jésus ne vient pas de porter un jugement sur la réalité des faits, car il mentionne aussitôt dans le même discours la reine de Saba, qui vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et il ajoute, comme pour Jonas, « Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Ou la reine de Saba et Salomon sont-ils eux aussi des personnages de légende? Mais entrons dans le vif du sujet. En réalité, ce qui gêne, ce qui embarrasse certains chrétiens, c'est cette histoire de la baleine. Est-ce scientifiquement probable? Il n'est pas possible, évidemment, de prouver que cet épisode dans la vie du prophète a réellement eu lieu. Mais peut-on au moins prouver que cela aurait pu se produire? Est-ce scientifiquement probable, pour ne pas dire possible? Eh bien, je crois que nous pouvons franchement répondre par l'affirmative. D'abord, nous avons pu remarquer que la Bible ne fait nullement mention d'une baleine. Il est question d'un gros poisson. Le mot hébreu « dag » est employé quelque 19 fois dans l'Ancien Testament, et il signifie chaque fois « poisson ». Chacun sait que la baleine n'est pas un poisson. C'est un mammifère vivipare. L'idée d'associer Jonas à une baleine est explicable par le fait qu'on ne pouvait pas imaginer un poisson assez gros pour héberger un homme pendant 3 jours. Or, il est notoire qu'une baleine a un gosier particulièrement étroit par rapport à sa taille, trop étroit pour laisser le passage à un homme, fût-il trop petit ou très petit. Cela est vrai de la plupart des baleines. On sait cependant que la famille des baleines comprend de nombreux individus de toute taille et de toute forme et que certaines espèces peuvent engloutir aisément des morceaux de la taille d'un homme. Nous ne voulons pas faire de ce quart d'heure un cours d'ichtyologie. Mais puisque nous sommes tourmentés par notre raison et par des questions d'ordre scientifique, il nous faut interroger la science pour qu'elle nous dise ce qu'elle sait du gosier des baleines et des grands poissons. Quoique la famille des baleines nous fournisse d'amples espaces où loger notre scepticisme et où trouver la solution ou la réponse à nos questions, c'est du côté des grands poissons que nous avons des remarques intéressantes à faire. Et des requins plus précisément. Il paraît que la famille des requins est elle aussi composée d'espèces nombreuses et variées, et que tous les requins ne sont pas aussi féroces qu'on le dit. Certaines espèces ne déchirent pas leur proie, elles préfèrent les avaler d'un seul coup, proprement. Exemple, le rhinodon, dont les habitudes gastronomiques sont singulières. Il se chauffe au soleil, à la surface de la mer, et lorsque la faim le tenaille, il ouvre une gueule énorme et nage à grande vitesse, engouffrant tout ce qui se trouve sur son passage. Vous vous souviendrez peut-être avoir entendu cette information surprenante l'année dernière sur cette antenne par le journaliste Georges Decaune. Il dit en substance ceci. Les ménagères qui ont fait leur marché à Kirachi cette semaine ne sont pas prêtes d'oublier ce qu'elles ont vu. En ouvrant un requin sur son étal, un poissonnier découvrit le cadavre entier d'un homme, un vieillard, recroquevillé, qui serrait encore contre sa poitrine, une petite cruche d'huile. Qui sait depuis combien de jours il était là? Mais ce qui est encore plus concluant, c'est l'aventure survenue à un marin anglais dans la Manche. Il tomba par-dessus bord en essayant de harponner un de ces monstrueux rhinodons. Et avant qu'il ait pu être récupéré, il fut englouti par l'un des monstres. Toute la petite flottille de pêche se mit à traquer le requin qui ne fut repéré et abattu par un coup de carabine que 48 heures après l'accident. Trop lourd pour être hissé à bord, on le remorqua jusqu'à la côte, où on l'ouvrit pour donner à l'infortuné marin une sépulture plus décente. Quelle ne fut la stupéfaction des marins de retrouver leur compagnon inconscient, mais vivant. On le transporta à l'hôpital d'où il put sortir quelques heures plus tard. Cet incident fit du bruit, comme on peut l'imaginer. Tout le monde put voir le marin en question pour 1 shilling, exposé comme une curiosité au musée de Londres. On l'exhibait bien entendu comme le Jonas du XXe siècle. Or, si un homme a pu vivre 2 jours dans le ventre d'un grand poisson, et cela sans un secours providentiel particulier, est-il si difficile de croire qu'un prophète de Dieu a pu vivre cette même expérience 1 jour de plus? Si quelqu'un souffre d'une allergie au surnaturel, ces considérations peuvent le soulager. En tout cas, Nous savons dorénavant que le récit biblique est parfaitement vraisemblable, parce que scientifiquement possible, et sur la foi du témoignage personnel du Christ, ayons l'humilité et la sagesse élémentaire d'y croire.